que tout ça cesse, faut que le ministre se bouge, que le gouvernement se bouge pour qu'on n'ait plus à vivre ce genre de drame.
La sœur de l'adolescente, 15 ans, tuée devant son collège au Lila. Elle en appelle au ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, face au climat de violence dans certains établissements.
Les Bleus n'affronteront pas l'Angleterre en Coupe du Monde de rugby samedi. Match annulé face à la menace de typhon. Nous serons en direct du Japon dans quelques secondes.
Attentat antisémite en Allemagne le jour de Kippour. Un mort, deux blessés graves dans la ville de Halle.
On a franchi des lignes rouges ces derniers mois avec la parole. Je ne vois pas cela comme un acte isolé, mais bien comme la conséquence d'une situation plus générale.
Le tueur proche de l'extrême droite a été arrêté. Après les bombardements aériens, la Turquie a lancé hier soir une offensive terrestre contre les forces kurdes. La France condamne très fermement.
Et puis le Nobel de littérature dévoilé vers 13h. En fait, ce sont deux Nobel qui seront décernés puisque celui de l'an dernier avait été annulé.
Certains étaient d'avis de ne pas l'attribuer afin que l'Académie soit marquée au fer rouge.
Il est 6h01. Bon réveil à toutes et à tous sur Europe 1.
Europe 1. Le journal Mathieu Béliard, Hélène Zélani.
Et donc tout d'abord direction Tokyo où nous attend notre envoyé spécial sur la Coupe du Monde de rugby, Simon Rubin. Simon, on l'a appris donc il y a moins d'une heure, le crunch, le match Angleterre-France est annulé.
Eh oui, match annulé, c'est une première dans l'histoire de la Coupe du Monde de rugby. Angleterre-France annulée à cause du super typhon Agibis qui fait route vers Tokyo et devrait frapper la capitale japonaise ce samedi au moment où aurait dû se tenir le match. Impossible dans ces conditions de faire jouer les équipes, hein, confirme ce matin l'organisation. Impossible et surtout dangereux aussi de délocaliser la rencontre comme ce fut évoqué hier. Les supporters qui avaient leur billet pour Angleterre-France seront évidemment remboursés. Je rappelle que le typhon Agibis est le plus puissant de l'année ici au Japon avec des vents aux alentours des 300 km/h en ce moment. Conséquence de cette annulation de match, eh bien la France reste donc deuxième de son groupe derrière l'Angleterre et se qualifie pour les quarts de finale. Un quart de finale qu'elle jouera le dimanche 20, donc dans 10 jours, du côté d'Oïta, dans le sud du pays. Et ce sera, a priori, contre le Pays de Galles.
Simon Rubin, en direct de Tokyo pour Europe 1.
Les organisateurs du Grand Prix du Japon de Formule 1, prévu ce week-end, surveillent eux aussi de près ce typhon, qui est donc annoncé comme l'un des plus puissants de ces dernières décennies.
La rentrée scolaire, c'était il y a un mois et demi. Pourtant, plusieurs affaires de violence très graves ont déjà éclaté, notamment celle de ce lycéen de 15 ans, poignardé au Lila la semaine dernière.
Trois adolescents du même âge sont désormais en détention provisoire pour assassinat en bande organisée. La sœur de la victime, Berfin, a accepté de témoigner au micro Europe 1. Elle en appelle à une prise de conscience.
On a peur pour mes frères, pour mes cousins, pour les enfants qu'on connaît. On a peur. Il n'y a presque plus personne qui va à l'école, justement. Il n'y a presque plus personne qui laisse ses enfants dehors. Et c'est pas normal d'être comme ça, que le matin on se réveille et qu'on ait peur, en fait. On n'a pas à vivre dans une vie où on regarde derrière nous quand on marche. C'est pas normal. Que tout ça cesse, faut que le ministre se bouge, que le gouvernement se bouge pour qu'on n'ait plus à vivre ce genre de drame. J'essaie de rester forte pour ma famille, justement. J'essaie de me battre pour que justice soit faite pour mon frère. Faut qu'on reste fort, soudé et qu'on soit tous dans la même optique pour justement que l'État se bouge.
La force de l'appel de Berfin, sœur de l'adolescent tué au Lila, au micro de Jean-Gabriel Bourgeois.
Et ces inquiétudes, ces violences, Jean-Michel Blanquer y répond ce matin sur Europe 1, le ministre de l'Éducation nationale, qui sera l'invité de Sonia Mabrouk à 8h20. Il aura l'occasion d'évoquer un autre point très sensible dans les établissements scolaires, la question de la radicalisation.
Oui, est-ce qu'elle concerne plutôt les enseignants, les élèves, et dans quelle proportion? Les réponses de Virginie Riva.
Selon le cabinet du ministre Jean-Michel Blanquer, on compte une dizaine de signalements de personnel de l'éducation nationale pour l'année scolaire passée, avec, selon les cas, des mesures drastiques. Exemple à Torcy, où un professeur dans le public est par ailleurs imam, a tenu dans sa mosquée des propos violemment anti-républicains. Son dossier administratif était pourtant vide. Il a été révoqué. Mais la majorité des signalements concernent surtout des élèves suspectés de radicalisation. Plus d'un millier des signalements gérés au niveau de chaque rectorat, avec partout un référent radicalisation. La situation est particulièrement sous vigilance en Île-de-France. À Paris, par exemple, une cellule de prévention se réunit chaque mois, pilotée directement par la préfecture. Là, on compte 200 à 300 signalements, parfois dès le primaire, ce qui déclenche alors un suivi de toute la famille. Des détections sur la base de signaux faibles, à savoir un changement d'habitude vestimentaire, un refus de jouer tel instrument de musique ou le refus de s'asseoir à côté d'une petite fille.
Les informations de Virginie Riva, spécialiste éducation d'Europe 1. Et pour ce qui est de l'enquête sur le tueur de la préfecture de police de Paris, la clé USB est toujours en cours d'exploitation. Des dizaines d'enquêteurs ont travaillé toute la nuit. Selon les informations d'Europe 1, les premiers résultats sont rassurants. Les noms et les adresses de policiers ne sont pas sortis du bureau où la clé a été retrouvée.
Europe 1, il est 6h05.
Pendant 35 minutes, l'homme qui a voulu s'en prendre à une synagogue à Halle, dans l'est de l'Allemagne, a filmé et diffusé son attaque en direct. Cet homme de 27 ans a choisi le jour le plus saint du judaïsme, Kippour, mais il n'a pas réussi à entrer dans la synagogue.
Oui, en revanche, il a tué deux personnes, une passante et un client d'un restaurant de kebab. Il a également blessé grièvement deux autres personnes. Les autorités allemandes évoquent un attentat antisémite perpétré par un sympathisant d'extrême droite, qui a d'ailleurs été arrêté. Écoutez la réaction du représentant de la communauté juive allemande, Joseph Stüster.
C'est le résultat d'un glissement d'une partie de la population allemande vers l'extrême droite. J'ai maintenant l'impression que les actes suivent les mots. On a franchi des lignes rouges ces derniers mois avec la parole. Donc pour moi, et je ne suis pas le seul, je ne vois pas cela comme un acte isolé, mais bien comme la conséquence d'une situation plus générale.
Le représentant de la communauté juive allemande.
L'offensive terrestre des Turcs a été lancée dans la soirée. Un peu plus tôt, les bombardements aériens avaient commencé contre les forces kurdes du nord-est de la Syrie.
Pourquoi est-ce que la Turquie s'est lancée dans cette offensive? Écoutez la réponse de Jean-Jacques Herry.
L'objectif final d'Ankara, c'est de repousser les forces kurdes syriennes loin de sa frontière. Des forces que la Turquie a toujours considérées comme des terroristes liés au PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, en lutte contre l'État turc depuis les années 80. Or, depuis le début du conflit syrien, les Kurdes se sont imposés comme des alliés indispensables et incontournables pour la coalition internationale dans la lutte contre Daesh. Grâce à ce nouveau statut, leur puissance dans la région s'est accrue et tant que les Américains étaient là, ils étaient intouchables. Mais avec le départ des troupes américaines, Ankara peut maintenant mettre son plan à exécution. Par la force, l'armée turque va d'abord chercher à instaurer une zone tampon côté syrien, une bande de 30 km de large et de 120 km de long dont elle veut chasser les Kurdes. C'est cette première étape qui a commencé hier. Dans un second temps, et pour empêcher tout retour des populations kurdes, Ankara a ensuite l'intention d'y installer au moins 2 millions de réfugiés syriens actuellement installés dans des camps en Turquie. Une opération qui aurait pour elle un double bénéfice. Cela lui permettrait de s'alléger du poids des réfugiés tout en affaiblissant son adversaire kurde.
Hélas, au Turc a déjà fait au moins une quinzaine de morts, des milliers de déplacés et conséquences très concrètes. Quelques 10 000 combattants de l'État islamique détenus par les Kurdes pourraient se retrouver dans la nature, dont 2 000 djihadistes étrangers, parmi eux une centaine de Français. Cette offensive turque provoque un tollé international. Le Conseil de sécurité de l'ONU va d'ailleurs se réunir en urgence dans la journée.
Europe 1. La Cour des comptes dénonce les excès dans le secteur du transport de malades. Les taxis des Bouches-du-Rhône sont particulièrement pointés du doigt. On en parle dans la suite du journal. A tout de suite.
Europe 1, il est 6h08.
Peugeot présente plein phare sur le SUV Peugeot 2008.
Dans la superproduction Génération 2020, j'ai pris, pardonnez-moi l'expression, une véritable claque avec le SUV Peugeot 2008. Il y a bien sûr son parc assist qu'on ne présente plus, sa caméra de recul pour des manœuvres parfaitement exécutées, mais ce qui m'a vraiment bluffé, c'est son moteur dernière génération déjà disponible. Un tout nouveau moteur plus efficient qui achève définitivement de nous convaincre grâce à 3500 euros de prime génération 2020.
Porte ouverte ce week-end, détails sur Peugeot.fr.
Je suis bien dans ma maison, quelle que soit la saison. Quand vient grand froid, j'aime rester chez moi. Derrière ma baie vitrée, je regarde la pluie tomber. Mon volet roulant lui va comme un gant.
Monsieur Store, vos offres coup de cœur en ce moment, je les adore. Moins 25% sur une sélection de portes d'entrée, volets, portails.
Monsieur Store,
1000 façons d'aimer sa maison.
Vous avez un projet? Appelez vite votre magasin ou rendez-vous sur monsieurstore.com. Voir conditions détaillées en magasin.
Mercedes-Benz.
Tu te souviens du prix de ton utilitaire?
Oui, 199 euros par mois.
Pour le même prix, j'ai un Vito Mercedes-Benz.
Je t'ai toujours détesté.
Je sais.
En ce moment, offrez-vous un Vito Mercedes-Benz au prix d'un utilitaire pour seulement 199 euros par mois. Entretien, extension de garantie, remplacement des pièces d'usure, avantage service care inclus.
Mercedes-Benz, des utilitaires conçus pour durer.
Vito fourgon 110 CDI en crédit bail facilité 36 mois, 90 000 km. Premier loyer 4534 euros hors taxe à professionnel, valable jusqu'au 31/12/2019. C'est acceptation par Mercedes-Benz Financement. Conditions sur mercedes-benz.fr.
Auchan, et la vie change. Il y a des batteries de cuisine étonnantes qui envoient la sauce. Et pendant les 100 jours étonnants Auchan, il y a des batteries de cuisine encore plus étonnantes. Comme le set de 15 pièces Tefal avec 50% de remise immédiate.
Jusqu'à mardi, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent le set de 15 pièces Tefal Ingénio Essentiel tout feu sauf induction à 67,45€ au lieu de 134,90€.
Auchan.
Comprend 2 casseroles, 2 couvercles, 3 poêles, 1 sauteuse, 1 poignée et 6 spatules.
Europe 1, il est 6h10, le journal se poursuit avec Hélène Zelani et Mathieu Béliard.
La Cour des comptes épingle les pratiques de certains taxis marseillais pour le transport programmé de malades.
Oui, par exemple, pour les dialyses, on compte bien plus de déplacements dans les Bouches-du-Rhône qu'ailleurs et leur montant moyen est largement supérieur. 78 euros la course contre 35 en Loire-Atlantique, par exemple. Aurélien Fleureau.
Les dépenses dans le secteur du transport de malades dans les Bouches-du-Rhône ont bondi de 50% en 10 ans. 165 millions d'euros remboursés en 2018. C'est une somme plutôt bien maîtrisée, selon la caisse primaire d'assurance maladie du département. Mais ce que la Cour des comptes constate, c'est que les deux modes de transport les plus coûteux sont surreprésentés. Il s'agit des taxis et des ambulances, en comparaison notamment avec les VSL, les véhicules sanitaires légers. Ces déplacements sont assurés par des taxis dans 73% des cas. Dans les Bouches-du-Rhône, c'est 15 points de plus que la moyenne nationale en 2018. Entre les lignes, la Cour des comptes laisse entendre que c'est une sorte de rente qui s'est mise en place en garantissant des courses rémunératrices aux chauffeurs. Même disproportion concernant les ambulances qui représentent 60% des dépenses dans les Bouches-du-Rhône contre à peine 36% dans le reste du pays.
Aurélien Fleureau.
Bonjour Thierry Schifano.
Bonjour.
Vous êtes le président de la Fédération nationale des transports sanitaires. Merci d'être en direct sur Europe 1 ce matin. Ces abus des taxis des Bouches-du-Rhône, c'est une situation que vous reconnaissez ?
Attendez, je crois qu'avant de parler de l'abus, il faut voir un petit peu ce rapport. Ce rapport me semble complètement hors sol. Et comme d'habitude, c'est un rapport encore une fois de plus en charge.
Donc non.
Si, non, là aujourd'hui, ça ne va plus du tout. Alors qu'en ce moment, nos entreprises sont en train de décrocher de façon énorme, on est en train de mettre dans ce rapport tout et n'importe quoi. Et je pense que c'est pas digne d'une commission comme la Cour des comptes de faire ce rapport-là. Je pense qu'il serait beaucoup plus intéressant de poser la vraie problématique.
Et à aucun cas,
dans ce rapport, on parle de la désorganisation des hôpitaux qui enclenchent cette désorganisation de notre transport sanitaire.
Alors, vous dites grosso modo que les abus, il ne faut pas trop en parler, finalement c'est le fait d'une minorité, mais ils existent quand même, alors on peut les éviter comment ?
Bien sûr que les abus existent, je vous l'ai dit et redit il y a plusieurs fois, mais reprenons ce rapport. On cite 50 déclarations sur 128 000 bénéficiaires. De quoi on parle ?
Pas représentatif à vos yeux. Merci Thierry Schifano. Merci d'être venu nous expliquer finalement, nous éclairer sur ces chiffres de la Cour des comptes. Une opinion, vous souhaitez répondre, n'hésitez pas au 39-21. Merci Thierry Schifano d'avoir été l'invité du 6h en direct sur Europe 1. Vous présidez la Fédération Nationale des Transports Sanitaires.
Nous sommes dans la semaine des Nobel avec aujourd'hui l'annonce de deux prix, ceux de littérature.
Celui de cette année, mais aussi, tiens, celui de l'an dernier qui avait dû être annulé pour des raisons que nous rappelle Nicolas Caro.
C'est par un Français que le scandale est arrivé. L'année dernière, en Suède, en pleine tempête MeToo, un certain Jean-Claude Arnault est accusé de viol et agression sexuelle par 18 femmes. Or, cet Arnault est marié à l'une des membres de l'Académie suédoise. C'est la crise chez les sages. Une partie défend Arnault, l'autre le conspue. L'Académie se déchire et les hautes instances du Nobel décident finalement de suspendre l'attribution du prix. Voilà pourquoi cette année, il y aura deux lauréats. Mais cette décision n'allait pas de soi, selon Olivier Truc, ancien correspondant du Monde en Suède, qui vient de publier l'affaire Nobel chez Grasset.
Certains étaient d'avis de ne pas l'attribuer afin que l'Académie soit marquée au fer rouge comme un rappel permanent. Et d'autres disaient au contraire, c'est important de l'attribuer pour effacer cette trace.
Deux noms seront donc annoncés aux alentours de 13h aujourd'hui. Les bookmakers se déchaînent comme chaque année. On murmure qu'il s'agirait d'au moins une femme. Il faut dire que depuis 1901, seules 14 femmes l'ont reçue sur 114 lauréats.
Ouais, une femme, ça serait pas mal. Nicolas Caro.
Merci beaucoup Hélène Zelani, mordue de littérature. Hein. Je ne parle pas de Nicolas Caro, hein, qui évidemment lui lit des livres par dizaines toutes les semaines.
Spécialiste.
On retrouve le week-end, mais Hélène Zelani aussi lit pas mal. Je voudrais juste revenir sur cette histoire de transport sanitaire, hein, d'un seul mot. Hein. Vous en bénéficiez vous-même, vous souhaitez témoigner, vous-même vous conduisez peut-être un de ces taxis de transport sanitaire. 39-21, le hashtag Europe 1 ce matin.
Europe 1.
C'était le journal de 6h. Merci beaucoup Hélène Zelani. Un nouveau journal à 6h30 avec Jérôme Lacroix.
Et juste avant,